étudiant de théologie, par le Père Philippe Arimont, le 24 février 91.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ce matin? Oui. Faut pas hésiter, hein, parce qu'on fait le cours pour vous. Il y en a des questions.
Oh, mais je crois qu'on a été un peu tous perdus par la pureté de la pureté ce matin.
La pensée.
La pensée.
Oui, oui, je comprends que c'est très difficile. Vous voyez, c'est un sommet de la pensée. Mais d'autre part, c'est intéressant de voir que dans la recherche de Dieu, un païen a d'abord su la révélation. Dit quelque chose de très grand. Vous voyez, si Dieu existe, peut-être que l'être premier, et peut-être qu'un vivant parfait, spirituel, au-delà du point de vue matériel, est parfaitement en acte, donc un contemplatif. Il contemple quoi? Il n'y a rien au-dessus de lui, donc il ne peut que se contempler. Contemplation de la contemplation, pensée de la pensée. Oui. Et au fond, saint Thomas reprend ça. C'est ça qui est très fort. Oui. On voit le grec, Aristote, saint siècle avant Jésus-Christ, au moment de l'art grec dans toute sa force, et Thomas d'Aquin avec sa foi. En quelque sorte, à sa manière, va assumer cet effort d'intelligence. C'est pour bien montrer que il n'y a pas d'opposition entre foi et intelligence. C'est pas une continuité. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans la foi. Mais mystérieusement, il y a une continuité de vie intellectuelle. L'amour vient de Dieu. Et nous avons, nous, dans notre fin du XXe siècle, trop facilement la coupure entre les deux. Voilà ce que la science dit. Voilà ce que la foi dit. Alors on devient des chrétiens qui ne peuvent dialoguer avec plus personne. Le Concile demande ouverture au monde. On doit pouvoir, au point de vue de l'intelligence, pouvoir dialoguer par rapport à l'homme. Je ne dis pas dans les recherches scientifiques les plus poussées, ça, c'est, vous voyez, vis-à-vis d'un mètre deux. Et c'est vrai, j'aime beaucoup ce que représentent les mathématiques comme à côté de la philosophie. Ce n'est pas la philosophie, mais c'est presque parallèle, si vous voulez. De pouvoir dialoguer avec un mathématicien pour situer où la foi se met par rapport aux mathématiques, où la foi se situe par rapport à la biologie. Oui, c'est ça que je crois important pour nous, et de montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi et la science. Prenez l'image pour comprendre. La foi, on vole à 100 000 mètres de hauteur, puisque c'est un vol au niveau divin, dans la lumière de Dieu. Les mathématiques les plus poussées, 10 000, la technique. Le danger, c'est de se retrouver sur le terrain d'atterrissage. l'homme qui est croyant, c'est l'homme qui est mathématicien, c'est l'homme qui est philosophe, c'est l'homme qui est technicien. Il le sait. Et il doit comprendre qu'il peut avoir cette diversité de regard. Mais que dans cette diversité de regard, il y a quelque chose de commun. Alors c'est ça l'analogie, vous voyez. C'est de chercher ce quelque chose de commun dans cette diversité de niveaux. Et qu'il y a quelque chose de commun. Et le raisonnement très simple que donne saint Thomas, c'est que notre intelligence, elle vient de Dieu. Et que notre foi, elle vient de Dieu. C'est le même Dieu. C'est le Dieu, dans sa simplicité, qui me donne l'intelligence, créateur. Et c'est le Dieu Trinité qui me donne la foi. Mais c'est le même Dieu. Mais je le regarde différemment. Parce que on sait très bien, quand on est devant un chef-d'œuvre, une petite église romane, on n'a pas qu'un seul point de vue. On aime de regarder différents points de vue. Et si on n'avait qu'un seul point de vue, on dirait, mais écoute, tu es bête. Vraiment, c'est complètement idiot. Regarde un peu, viens regarder. Alors, on regarde en face, on regarde de pied, on regarde du fond, on le fait spontanément. Et même, il y a aujourd'hui possibilité d'une vue aérienne. Il y a des choses qu'on distingue en vue aérienne qu'on verrait autrement. Vous voyez, on se sert du télescope, on se sert du microscope, on se sert. Il y a une vue aérienne qui fait qu'on voit autre chose qu'on ne verrait pas autrement. Et on respecte ça. Et on sait que c'est pas la même chose. Et la foi, lumière divine, qui dépasse tout cela. Et donc tout pourrait, si on était très intelligent, tout pourrait aider la foi à mieux saisir. Parce que c'est tellement plus haut et c'est tellement plus proche de nous. Dieu est plus proche de moi, de mon intelligence. Et Dieu, dans son mystère de la très sainte Trinité, est plus proche de moi que les conclusions mathématiques. C'est merveilleux de comprendre ça. Dieu est plus proche que moi que les conclusions scientifiques qui se sont servies d'instruments, d'un microscope électronique pour eux. C'est beaucoup plus loin de moi. Dieu est plus proche de ma sensibilité, de mon esprit que toutes ces conclusions scientifiques. Alors une fois qu'on a saisi ça et qu'on sait que le mystère de la très sainte Trinité, c'est Dieu qui nous révèle son secret. Un secret d'amour, mais d'une intelligence prodigieuse, lumineuse. Je mets tout mon effort d'intelligence pour essayer de pénétrer autant que je peux. Je sais que ce sera très faible, mais ça ne fait rien de pénétrer dans ce secret. Et puis, je serai là pour montrer que tout ce qu'on peut dire, que ce secret, mais oui, c'est contradictoire, ça ne peut pas, mais non. Dieu est infini. Et toutes les objections qu'on met sont fausses. Parce qu'on oublie que l'intelligence et la vie de Dieu est tout autre que la mienne. Et que quand je dis tout autre, il y a quand même quelque chose de commun. Puisqu'il est source de ma vie. Il y a une parenté au plus intime de moi-même entre Dieu et moi. Il y a une parenté. Et c'est cette parenté que je veux découvrir. Vous voyez, c'est ça l'effort du théologien. C'est ça l'effort du philosophe au service de la foi. Découvrir cette parenté. Qu'est-ce qu'il y a de semblable? Vous voyez, le biologiste cherchera la parenté et la différence qui existe entre un rat et puis l'homme. Entre un petit cobaye et l'homme. Et il sait très bien que le moment où il ne voit plus la différence, il fait très graves erreurs et commettra des boulettes énormes au point de vue remède pharmaceutique. Mais, eh bien, c'est la fête d'application. Vous voyez, si je confonds Dieu et l'homme, je fais des... Il n'y a plus de différence entre l'homme et Dieu qu'entre le petit cochon. analogie, je me sers de ces comparaisons pour essayer de dire, mais oui, tout ça doit me servir à entrer dans le mystère de Dieu. Alors là, on devient intelligent pour Dieu. Le mystère de Dieu n'est plus extérieur à nous. Il fait partie de notre vie. Oui. Et le mystère de la très sainte Trinité, c'est les grandes confidences de Dieu qui me disent sa vie intime. Et j'essaie de comprendre cela. Oui. C'est cet effort du théologien. C'est beaucoup de comprendre l'intention du théologien. Oui. Les conclusions, c'est très bien, mais on les oublie. Ce qui est intéressant, c'est nous-mêmes, là où on est, d'être théologiens à notre manière. Parce qu'on peut se servir de certaines découvertes scientifiques pour dire tout ça explique la vie. Je me souviens, c'était des choses qui m'avaient beaucoup intéressé. Un ami qui enseigne à Paris, à la faculté de médecine, que j'aime beaucoup, qui est remarquablement intelligent, il avait fait une fois un exposé sur la politique de la vie. C'est pas vieux, il y a quelques années. Et je le vois régulièrement, à plus finement des dernières inventions, ça m'intéresse. La politique de la vie. Et puis on avait dit après, alors le philosophe, qu'est-ce qu'il dit sur la vie? Alors j'ai dit, mais c'est curieux, vous voyez, le philosophe, il ne se sert pas des mêmes instruments que le savant. Pourquoi? C'est pas par fidélité à saint Thomas. Ce serait complètement idiot. Je me sers de l'électricité, et saint Thomas s'en servait pas. Je me sers pas du microscope électronique pour connaître ce que c'est que le vivant. Pourquoi? Parce que j'essaie, en tant que philosophe, de connaître ce que c'est que l'esprit. Le biologiste, avant tout, c'est la vie. Dans le corps, c'est le corps vivant. Moi, j'essaie de comprendre quelque chose qui est l'intérieur de l'homme. Alors ça, je sais que je peux pas me servir d'instrument. Je réfléchis. Alors, c'est la même chose pour Dieu, vous voyez. Le monde physique vient de Dieu, mais donne des vestiges. La très sainte Trinité, oui, elle marque tout. Tout est marqué du sceau de la très sainte Trinité. Mais ce sont des vestiges lointains. Tandis que dans l'esprit de l'homme, il y a l'image. Il y a l'image. Et ce qui m'intéresse, c'est découvrir quel est ce sens de l'image. Et tout le traité de la très sainte Trinité chez saint Augustin, parce que je vous ai pris saint Thomas, j'aurais pu prendre saint Augustin, parce que saint Augustin a un traité sur la très sainte Trinité qui est plus abordable pour nous. Celui de saint Thomas a l'immense avantage, c'est qu'il est vertical, un plan invraisemblable. Alors j'aime bien ça, j'aime bien la verticale, parce que ça nous oblige d'avoir des muscles, tandis que contre ce mot c'est plus métapsychologique, vous voyez. Tandis que Saint-Thomas, fil à plomb. Le fil à plomb, c'est l'analogie. Et alors, quand on regarde ça, le traité de la très sainte Trinité chez Saint-Thomas est d'une extraordinaire simplicité. On comprend. Il recherche quel est le point commun. Je prends l'exemple. Entrer dans la forteresse. Quel est le point commun? Où est-ce que je pourrais découvrir ça? C'est révélé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est révélé. Je retourne vers le Père. Je procède de lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a cette émanation vitale, cette opération vitale. Cette opération vitale qui a un fruit. Voilà ce qui m'est révélé. C'est que la fécondité, elle existe de toute éternité en Dieu. C'est fou ça. Oui. La fécondité, c'est pour le problème, pour la biologiste, le problème clé. C'est là où il voit que. Comment ça fait plaire? Je ne sais pas très bien. Très difficile. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Comment se fait-il qu'un grain de blé en donne une quantité? C'est toujours cette chose inouïe de la fécondité. Cette espèce d'éclatement dans la très sainte Trinité, Dieu. absolument simple implique cette fécondité. Comment essayer de toucher cela dans ma foi? Je le sais dans la foi, mais comment toucher? Ah, je vois que Jésus lui-même, quand il nous dit « Je procède du Père, je viens du Père, je retourne vers le Père », il y a donc un lien fondamental, éternel, qui existe en Dieu, sans aucune brisure, sans aucune séparation. Autrement, il n'y aurait plus d'unité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un Dieu et il y a trois figures de Dieu. Et il y a trois personnes de Dieu. C'est fou, ça. C'est fou de réfléchir un peu sur ça. Essayer de voir comment mon intelligence humaine peut-elle dire quelque chose d'intelligent. Alors, je me sers de la procession. La procession, regarde, une opération. C'est une opération qui n'implique pas de résultat extérieur et qui est une opération purement immanente. Parce qu'en Dieu, il y a une immanence absolue. Il n'y a rien à voir. En dehors de Dieu, ce serait plus Dieu. Donc, c'est à l'intérieur même du mystère de Dieu que je découvre cette fécondité. Et c'est pas impossible, parce que Dieu est infini. Alors, il peut y avoir cette fécondité à la fois la plus nécessaire et la plus gratuite. C'est ça qui... Je suis obligé de dire les deux. La plus nécessaire parce que c'est éternel. C'est pas du tout quelque chose que Dieu aurait pu très bien ne pas faire. Non. Dieu est nécessaire. Il est. Alors, je découvre par ce mystère de l'émanation, par le mystère de cette procession, de cette action immanente en Dieu, dont j'ai une petite expérience, très petite, par où je suis à l'image de la très sainte Trinité. Mon intelligence, mon opération intellectuelle, mon intelligence en effet, quand je pense, je forme au-dedans de moi-même un concept. Et quand je vous parle, j'exprime ce concept. Normalement, je pense avant de parler. Mais vous savez qu'il y a des gens qui parlent avant de penser. Ça existe. Et ils parlent pour penser. Ça fait partie psychologiquement d'une certaine attitude particulière. N'est-ce pas ? Normalement, on pense avant de penser. On pense avant de parler. Et on exprime ce qu'on pense. On a réfléchi beaucoup là-dessus, de nombreuses années. Puis on vous dit, voilà. Et donc, la parole, qui est la communication. Aujourd'hui, on ne parle plus que de communication. Oui, on ne parle plus de la pensée. L'autre jour, j'assistais comme ça, je ne dis pas avec qui, parce que c'est quelqu'un là, que vous connaissez sûrement au moins de nom. Il y avait tout un exposé sur la communication. À l'intérieur de l'église. Alors, il y a eu quelqu'un qui a posé la question, mais la communication, est-ce qu'elle ne dépend pas de ce qu'on doit communiquer? Alors, vous n'avez jamais dit ce qu'on devait communiquer. On ne communique pas de la même manière de l'eau ou du feu. Ça se communique autrement. On ne communique pas de la même façon la terre, des pierres, la communication. La communication en soi. Il faut d'abord ce qu'on va communiquer. Alors, c'était catastrophique. Toute la conférence. Le conférencier dit, ah mais c'est évident. Alors, si c'est évident, pourquoi vous ne le dites pas? Vous avez parlé de la communication en soi. Comme c'était la communication. Mais autre chose est de communiquer un secret à un ami. Je ne vais pas à la télévision ou pour communiquer un secret. J'ai un grand secret à vous dire. Il n'y a qu'une seule personne qui peut l'entendre. Mais tout le monde l'entend. C'est la communication. c'est Dieu lui-même. Et ce concept qu'on appelle le verbe exprime donc ce que Dieu éternellement contemple. Il se contemple. Il se pense. Et le fruit de sa pensée, c'est ce verbe. Voilà ce qui m'est révélé. J'aurais pas pu le trouver tout seul. Les plus grands philosophes n'ont jamais dit. La philosophie s'arrête au seuil de la très sainte Trinité, au seuil de cette forteresse divine, si j'ose dire, au seuil de cette intimité de Dieu. Ils s'arrêtent là, ils ne veulent pas plus. Mais c'est là où on voit ce que c'est que la révélation. Prenez pour mieux comprendre cette comparaison, c'était très simple. Quand vous visitez, quand vous faites la visite d'une exposition de tableau ou de sculpture, mais vous regardez. Et si l'artiste est encore vivant, et qu'on vous dit, il est là, il va venir, ça vous intéresse de le connaître. Si vous avez aimé ses œuvres d'art, vous dites, oh oui, ça m'intéresserait beaucoup. Et si vous n'avez pas aimé, on vous... Pas la peine. Pas la peine du tout. Et si vous le rencontrez, et vous avez estimé, c'est ça, vous avez aimé, autre chose est de tenir son ami. C'est pas la même chose du tout. Il vous dira les secrets de sa vie. Et puis il vous montrera ce que c'est que son art. Dieu créateur, c'est un grand artiste. C'est beaucoup plus par l'art qu'on comprend la création que par la science. L'art est beaucoup plus proche, parce que Dieu, en tant que créateur, est un artiste. Il est un artiste merveilleux. Il fait, voyez, des caricatures de son chef-d'œuvre, lui-même. Des caricatures, c'est pour ça qu'il fait des animaux qui sont très proches. Mais en même temps, il ne touche pas. Regardez un singe, vous ne comprendrez pas l'homme. Regardez l'homme, vous comprendrez le singe. Toujours, comme la caricature, on comprend. Vous regardez le modèle, on comprend la caricature. Et Dieu a voulu faire comme ça des tas de choses. Un artiste prodigieux, prodigieux. Et je vois toute cette œuvre d'art merveilleuse. Et je vois le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Ben, je voudrais bien connaître Dieu lui-même. C'est quand même intéressant. Ah, la révélation me fait pénétrer dans l'intimité de Dieu et me fait que Dieu devient l'ami. Et je découvre les secrets de Dieu. Et le secret de Dieu, c'est qu'en Dieu, il y a cette fécondité. Comment pénétrer dans ce mystère de fécondité qui ne peut pas être une fécondité biologique? La fécondité biologique implique la matière, la fécondité biologique implique la division, la séparation. Ça ne peut pas être ça. Et c'est pourtant une fécondité. Alors, c'est une fécondité purement spirituelle. Oui. Et cette fécondité purement spirituelle, j'en ai un tout petit exemple. C'est que dans mon intelligence, quand je pense à quelqu'un, je forme au-dedans de moi-même le concept de cette personne que je porte en moi. Mais ce concept n'est pas la réalité, très inadéquat. En Dieu, Dieu se pense lui-même. Et le fruit de sa contemplation, la foi me le dit, n'est pas extérieur à Dieu. Il ne fait qu'un avec Dieu. Le Verbe, le Fils bien-aimé du Père, ne fait qu'un avec sa source. Il est Dieu lui-même. Vous voyez, le petit fil conducteur, il est très très ténu, hein, je comprends très bien, il est très très ténu. Mais poussez, et vous verrez que ça tient. Si vous avez le temps, on pousserait, et on verrait que ça tient. Il y a une petite analogie, une petite comparaison. Non, c'est suffisant. Pourquoi en mettre un troisième? C'est pas pour le plaisir que 3 est un chiffre parfait. Comment ça se fait? C'est un fait. C'est la révélation qui me dit ça. Alors, est-ce que je peux essayer de comprendre? Ou est-ce que je suis obligé de dire non, je comprends pas? Effort de découvrir qu'il y a un fils, c'est déjà suffisant. Mais qu'il y en a un troisième, alors c'est un surplus. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que ça fait? Comment y a-t-il un troisième? Ah, attention. C'est que je suis image. Dans ma vie spirituelle, il y a la connaissance et l'amour. Autre chose est connaître, autre chose est aimer. Alors, je découvre là une analogie pour comprendre qu'il y a bien le verbe, c'est très vrai, et qu'il y a bien le fruit d'un amour, l'Esprit Saint. Parce que, justement, je découvre que dans mon intelligence, il y a ces deux orientations. Mon esprit, c'est mon intelligence. Mon esprit, c'est ma capacité d'aimer. Qu'est-ce qui est le plus spirituel, l'intelligence ou l'amour? Qu'est-ce qui vaut mieux, connaître ou aimer? Un petit test. Ça dépend quoi? Répond saint Thomas avec son bon sens. Il y a des réalités qu'il vaut mieux connaître que de les aimer. Et il y a des réalités qu'il vaut mieux aimer. Parce que ça va plus loin. C'est très beau ça. C'est merveilleux de voir que de fait, il y a un concours constant, intelligence et amour. C'est vrai, mon esprit, il est les deux. Vous avez déjà vu dans les forêts cette chose très émouvante. Moi, ça m'émeut toujours quand je vois ça. Dans les forêts de pins. De voir que dès le point de départ, on voit l'arbre qui est double. C'est pas deux branches, c'est le tronc qui est double. C'est très beau à voir, ça. Alors évidemment, plus ça grandit, ça s'écarte un peu, parce que ça peut pas être... Ça se gênerait. Alors ils ne se gênent pas. Ils sont charitables par rapport à l'autre, à une leur petite distance. Mais ils ont même origine. Et ils sont forcés de s'écarter, puisque il y a la quantité, il y a l'aspect physique. Oh Dieu, c'est ça qui est formidable. Je dis pas qu'il y a des jumeaux. Dites pas ça, dit la Trinité, ça s'explique par les jumeaux. Non, 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 non. Ça, c'est pas juste de dire ça. Oh Dieu, il y a cette chose étonnante. C'est que l'esprit, l'intelligence, la contemplation, a un fruit unique qui est le Verbe, le Fils. Et puis, il y a un troisième, l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils. Et si je veux saisir un peu ce qu'est cette procession, je dis que c'est une procession selon l'amour. Parce que pour aimer vraiment, il faut être deux. Deux. Vous savez bien, c'est dans l'amour d'amitié que l'amour peut être parfait. Autrement, vous cherchez, tant que vous n'avez pas retrouvé l'âme-sœur, vous cherchez indéfiniment. Je cherche. Des imbéciles dans le monde. Je suis seul capable d'aimer. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui peut aimer comme moi. Donc je suis déçu. Je suis seul, seul. Ah, vous rencontrez quelqu'un qui est très différent de vous, il n'est pas vous, et qui est capable de rencontrer et de recevoir votre amour. Et qui non seulement reçoit votre amour, mais vous aime en recevant votre amour. Insinu patris. C'était dans le prologue. Le verbe demeure dans le sein du père. Oui, on applique le sein du père, la source de la fécondité. Il demeure dans le sein du père, parce qu'il n'est jamais extérieur à sa source. Il est toujours présent dans la source. Il n'est pas extérieur à la source. Donc il demeure. Et le père et le fils, en étant deux, tout en étant un, sont source de l'Esprit Saint. Qui lui est le fruit d'amour. Il est l'amour de l'amour. Et il n'a pas quatre. Il en a trois. Parce que justement, votre esprit, votre âme spirituelle, elle se développe dans l'amour, selon l'intelligence et selon l'amour. Mais ça, c'est très beau. Être en parallèle, c'est comme ça qu'on doit faire, en parallèle, ce qu'il y a de plus profond en moi, connaître et aimer. J'aime telle personne, je vais la connaître de mieux en mieux pour l'aimer de plus en plus. Mon intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, est faite pour aimer. Pour permettre à l'amour d'aller plus loin, pour connaître la personne humaine. L'intelligence scientifique, c'est pas le sommet de l'intelligence, vous savez. Hein. Il y a des gens qui sont des scientifiques qui sont des brutes, humainement parlant. Vous en avez vu, c'est évident, et vous en verrez. Alors, ils sont des craques, du point de vue scientifique. Ils vont même peut-être des prix Nobel. Et puis quand vous les voyez vivre, je vous en citerai des exemples. C'est affolant. Alors que la véritable intelligence, l'esprit de finesse, comme dit Pascal, et non pas l'esprit de géométrie. L'esprit de géométrie, c'est massif. C'est l'intelligence de l'hippopotame. Ça écrase. Pour connaître. Tandis que l'intelligence de finesse, c'est tout à fait autre chose. Vous respectez l'autre. Vous le respectez pour mieux le connaître. Il ne faut pas le tuer pour le connaître. C'est vrai. Résistez-le. Alors, l'intelligence véritable, elle est faite pour aimer plus. Et vous ne pouvez être parfaitement un homme ou une femme, que si vous avez développé votre intelligence et votre cœur, et que le développement de votre intelligence s'est fait en harmonie avec celui du cœur, alors là vous êtes en face de quelqu'un qui est grand. Et si ça va très loin, c'est magnifique. La révélation me dit qu'en Dieu, il y a le fruit de sa contemplation, le Verbe, et le Verbe et le Père sont un pour être source de l'Esprit Saint, de l'amour. Alors vous voyez, ça donne, en tant que chrétien, ça donne à votre intelligence et à votre capacité d'amour une dimension nouvelle. Par mon intelligence, je m'approche de Dieu. Par mon amour, je m'approche de Dieu. Je m'approche du secret de Dieu, de son Fils et de l'Esprit Saint. Chaque acte d'amour, qui est un véritable acte d'amour, me met plus proche de l'Esprit Saint. Chaque acte d'intelligence, qui est vraiment un acte d'intelligence, me rapproche du Verbe de Dieu. Parce que c'est sur le modèle de la très sainte Trinité. Je suis créé à l'image de la très sainte Trinité. Il y a en moi un appel vers la très sainte Trinité. Je n'aurais pas pu le découvrir tout seul. Dieu est venu me révéler son secret. Et je reçois ce secret. Donc, vous voyez, pousser un peu plus. Non, mais c'est vrai, le traité de la très sainte Trinité, c'est le plus merveilleux. C'est le plus simple. Et comme nous sommes tous très compliqués, c'est très difficile. Mais dès qu'on se simplifie, on comprend tout de suite ça. C'est intelligence, amour. Et voir en Dieu, il y a une fécondité de l'intelligence. Et il y a une fécondité de l'amour. Il y a une double fécondité. Elles sont une dans la simplicité absolue de Dieu, mais elles ont leur caractère propre, leur caractère original. Je ne peux pas les confondre. Je n'ai pas le droit de les confondre. Alors, ce serait très intéressant ici, hein, je le cite simplement parce qu'on n'aura pas, on n'a pas le temps de creuser ça, mais de voir la différence entre les orthodoxes et l'Église catholique. À propos d'Esprit Saint, à propos du Verbe, on est tous d'accord. Maintenant, l'intelligence est plus facile à comprendre. L'amour, c'est toujours beaucoup plus difficile. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Et là, il y a un petit quelque chose comme ça. Quand il s'agit du mystère d'Esprit Saint, vous avez deux grandes traditions. La grande tradition de l'Église catholique et la tradition de l'Église orthodoxe. Quand vous rencontrez des orthodoxes, parlez de ça. L'Église catholique se fonde sur l'Évangile de Saint Jean. Et dans l'Évangile de Saint Jean aussi, je suis très attentif. Je vois qu'en effet, je n'ai pas le temps de le lire avec vous, mais vous pourrez le lire. Le grand enseignement dernier de Jésus, le grand enseignement sur le paraclet, qui commence au chapitre 14, qui s'achève fin 15 et 16. C'est la grande théologie de l'Esprit Saint que le Saint-Père a repris presque intégralement dans son encyclique sur l'Esprit Saint, qui est une encyclique difficile à lire, mais ça vaut la peine parce que c'est du Saint Jean. Alors ça vaut la peine, c'est quelque chose de très beau. Bien, si vous êtes attentif, vous voyez que Saint Jean commence par dire, c'est Jésus qui parle, c'est l'enseignement du Christ, je prierai pour que le Père vous envoie le paraclet, l'Esprit de vérité. Alors déjà le mot paraclet, hein, on ne sait pas très bien comment le traduire. C'est presque intraduisible. Parce qu'il faut presque lui dire paraclet, c'est le mot grec. Qu'est-ce que c'est que paraclet? Je crois que c'est Dieu qui nous écoute. C'est Dieu qui est notre avocat. C'est Dieu qui est notre consolateur. Quand notre cœur est broyé, on ne peut plus que crier. Et Dieu écoute. C'est l'amour. Quand on aime, on écoute celui qui s'ouvre. Quand on aime, on est présent. C'est l'amour. L'amour nous rend présent. Très présent. Alors, Jésus dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le paraclet. Et puis, au terme de l'enseignement du Christ, après avoir affirmé pendant 5 fois je vous enverrai le paraclet, ça c'est la grande affirmation, je vous enverrai le paraclet auprès du Père. Donc le paraclet, il est envoyé par le Père, il est envoyé par Jésus. Or s'il est envoyé par le Père et envoyé par Jésus, ça prouve qu'il y a un lien éternel entre le Père et l'Esprit Saint, et Jésus et l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que l'Église catholique, grâce très sainte Trinité. Une personne ne peut se distinguer de l'autre que s'il y a un lien de procession. Et on comprend très bien. Puisqu'il y a la simplicité absolue en Dieu. Si en Dieu il y a la simplicité absolue, s'il n'y a pas un lien, je ne dis pas de dépendance, mais un lien de procession, on procède, on vient d'eux, on ne peut plus distinguer. On verra ça. Donc, nécessairement, l'Esprit Saint qui n'est pas le Verbe, qui n'est pas le Fils, procède. Et du Père, et du Fils. Et le Père et le Fils sont un comme source de l'Esprit Saint. Les orthodoxes, très familiers par le point de vue de l'Apocalypse, les orthodoxes aiment énormément l'Apocalypse. L'Église latine, l'Église catholique, elle est beaucoup moins fervente des symboles. C'est vrai, le génie latin est un génie beaucoup plus juriste. Et les juristes n'aiment pas beaucoup le symbole. Faites une plaidoirie symbolique, vous êtes sûr de réussir. Les latins aiment la précision logique. Ils aiment des textes. Ça, c'est le propre du génie latin. Le génie latin est organisateur. Tandis que le génie grec est intuitif. Il aime le symbole. Alors, ils aiment énormément l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on voit que le Père est source de l'Esprit Saint et que le Père est source du Fils. Et donc, vous vous maintenez à ça. Vous dites que le Père est source de l'Esprit Saint et le Père est source du Fils. Alors si on discute, on dit mais le Fils est avant. Oui, vous pouvez dire donc le Père par le Fils est source de l'Esprit Saint. Ils iront jusque là, mais pas en disant le Père et le Fils sont un comme l'Esprit Saint. Alors vous allez me dire, ça ne sert pas à grand chose ces querelles puisque personne n'a vu le mystère de la très sainte Trinité, ni les latins, ni les orthodoxes. Donc, ils discutent sur un mystère qui les dépasse complètement. C'est un peu vrai. Parce qu'il y a l'Apocalypse, il y a l'Évangile. Et comme la très sainte Trinité nous dépasse complètement, je comprends très bien qu'il y a ces deux visions. Une vision plus contemplative, celle de l'Église catholique et de l'Évangile de Saint-Jean. Et une vision plus du gouvernement. Dans le gouvernement, l'Esprit Saint est premier. Et c'est lui qui nous fait remonter vers le Fils et remonter vers le Père. C'est saint Paul qui nous dit ça. Je ne peux pas dire Jésus en regardant le Christ et en disant qu'il est Fils de Dieu sans le secours de l'Esprit Saint. Et je ne peux pas dire Père sans le secours de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez bien, dans le retour, l'Esprit Saint m'aide à comprendre le mystère du Fils. Et il me conduit au Père. Donc, ce qui prouve bien que le Père est source du Fils et source de l'Esprit Saint. Alors, vous voyez, comment répondre à ça? C'est que la vision du gouvernement de Dieu reste partielle. Il faut la dépasser pour contempler Dieu en lui-même. Mais je n'entre pas trop là-dedans, mais je vous le signale parce que c'est important quand même. Surtout maintenant où les rapprochements entre catholiques et orthodoxes.
Ensuite, il faut parler peut-être aussi de la peau, parce que la peau est... qui est, oui, qui est carrément l'inverse de la station debout. Vous trouvez ça, à ma connaissance, chez aucun animal, si vous regardez ça de façon qualitative, par...
Je réponds à cette petite question. L'acte propre qui nous rapproche du Père serait-il celui de l'obéissance? Nous allons voir ça. Je ne réponds pas tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours précédent? Oui.
Merci. Si le Fils est uni substantiellement au Père, qu'est-ce qui permet encore de comprendre le fait qu'il soit aussi distinct?
Parce qu'il est fils.
Et en même temps,
il procède du Père. Mais il y a l'unité absolue, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le mystère est là. Il y a la simplicité absolue de Dieu et la distinction. Alors, je vous ai parlé des deux processions, selon l'intelligence et selon l'amour. Et la conséquence de ces deux processions, c'est que les personnes divines se distinguent uniquement par la relation. Alors ça, c'est évidemment le côté le plus subtil de cette recherche de la très sainte Trinité.
Est-ce que humainement, on peut concevoir une relation entre deux êtres substantiellement unis?
On ne peut pas concevoir ça humainement. Mais la foi nous montre, il ne faut jamais oublier, la théologie présuppose la foi. La foi nous dit que Dieu est un, absolument simple. Et la foi nous dit qu'en Dieu, il y a trois personnes. Et donc, il faut maintenir cette unité et cette simplicité absolue. C'est pour ça que quand les musulmans nous disent vous n'êtes plus des monothéistes parce que vous affirmez la très sainte Trinité. Il faut leur répondre, vous ne comprenez rien au mystère de la très sainte Trinité. Et donc vous n'avez pas le droit d'en parler. Nous restons des monothéistes. Dieu est unique, Dieu est un. Et nous le sommes plus que les autres. Parce que nous pénétrons dans le mystère de l'unité de Dieu, en voyant que dans cette unité, il y a une fécondité. Vous voyez ? Il faut maintenir d'une façon plénière ce mystère de l'unité de Dieu.
Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit procession, je ne dis pas dépendance. Mais du point de vue étymologique, quel est l'enracinement de ces deux mots ?
Le mot
Procéder d'eux,
émaner d'eux.
Et dépendre de...
Oui, dépendre. Dépendre montre un lien de soumission quand on dépend de quelqu'un. Une relation d'infériorité. Je dépends. Tandis qu'il peut y avoir une relation amicale. Je suis relativement ami. Je ne dépends pas de lui. Je l'aime. Donc il y a des exemples que nous avons de relations sans dépendance. Au contraire, mon ami me fait découvrir davantage ma liberté, parce qu'il est mon ami. Donc il y a une relation sans dépendance. La relation comme telle n'implique pas toujours une dépendance. Elle dit simplement d'être ordonné vers. Être vers. Vous voyez ? Tandis que la dépendance implique une infériorité. Alors, une fois qu'on a saisi intellectuellement dans la foi ce mystère des deux processions, ce que nous venons de voir, on peut immédiatement préciser que la distinction qui existe entre les personnes divines dans leur unité ne peut être qu'une distinction de relation et de pure relation divine. La relation comme telle n'implique pas l'infériorité. Être relatif à quelqu'un, ça ne veut pas dire du tout qu'on est inférieur à lui. Dans l'amitié, on est relatif. Oui. Pourquoi ?
Parce qu'il n'y aurait que la connaissance et l'amour.
Parce que c'est révélé comme ça.
Oui,
vous n'avez pas une quatrième personne de la très sainte Trinité. Et ça a ce sens que, de fait, Dieu créant un esprit nous montre que l'esprit se développe par l'intelligence et par l'amour. Et que la connaissance et l'amour se développent merveilleusement l'un par rapport à l'autre. Et que, d'une certaine manière, il montre bien ce que c'est qu'être spirituel. Mais pas d'autre expérience. Oui. Vous pouvez dire, il y a l'imagination. Oui, mais l'imagination, justement, c'est les possibles. C'est pas le réel. Le réel, vous le connaissez ou vous l'aimez. Et le réel, pour vous, c'est la personne humaine, en définitive. La personne humaine est le réel le plus fort que j'expérimente. Vous n'avez jamais fait une expérience d'une réalité plus parfaite que la personne humaine. Au sommet. Et la personne humaine, vous la connaissez et vous savez que c'est infini. On ne peut jamais dire que j'ai épuisé toute la richesse de la personne humaine. Elle est plus que ce que je connais. Biologiquement parlant, philosophiquement parlant. C'est pour ça que ma connaissance me met au service de cette réalité qu'est la personne humaine. Je ne la domine pas. Je la connais et je l'aime. Et saint Thomas pose la question, on y a touché tout à l'heure, je reviens un instant là-dessus. Quand je regarde l'intelligence, vous voyez, je dis intelligence, je ne dis pas raison. Faisons bien attention, hein. C'est depuis Descartes qu'on a confondu les deux. Alors avant Descartes, le monde était plus intelligent. Et on distinguait intelligence et raison. Et on sait très bien, autre chose est d'être intelligent, autre chose de raisonner. Il y a des gens qui raisonnent indéfiniment et qui ne comprennent rien. C'est les vieux moulins à café. On tournait comme ça. Et on continuait, le gosse continuait de tourner, même s'il n'y avait plus de grains. Il tournait, il tournait. On peut raisonner indéfiniment. Il n'y a pas de limite. Je peux même continuer de raisonner dans mes rêves. On raisonne, on raisonne, on raisonne. Les fous raisonnent, mais ils ne jugent plus. L'intelligence est tombée. L'imagination l'emporte. Et la folie, c'est ça. C'est l'imagination qui l'emporte. Alors, je peux continuer de raisonner. L'intelligence, c'est de discerner. C'est de juger. De voir exactement la différence. Ça, c'est propre de l'intelligence. Donc l'intelligence et la volonté. Or, pour Descartes, notre grand philosophe français. Pour Descartes, la volonté est ordonnée à l'efficacité. Un être volontaire. Tandis que l'amour, pour Descartes, provient de la passion. Il n'y a pas d'amour spirituel pour Descartes. C'est triste. Pour Thomas d'Aquin, et pour tous les pères de l'Église, avant Descartes. Donc pour toute la grande tradition chrétienne, avant Descartes. La volonté, c'est une capacité d'aimer. Je veux aimer. cette volonté d'aimer, c'est déjà l'amour, d'un amour spirituel. Descartes avait quelque chose d'effrayant en supprimant l'amour spirituel. Alors, l'amour n'est plus que passionnel et la passion est liée à l'instinct et l'instinct sexuel. Donc, on comprend très bien. C'est une chute radicale à partir de Descartes jusqu'à nos jours. Alors qu'il y a un amour spirituel qui est cette capacité d'aimer une personne, je ne peux l'aimer que spirituellement, en appliquant un amour passionnel aussi. Mais c'est premièrement, quand j'aime une personne, c'est premièrement ce qu'est cette personne que j'aime, son esprit, son âme spirituelle, ce qu'elle est en profondeur. Alors voyez, Saint Thomas se pose la question, qu'est-ce qui est premier ? L'intelligence ou la volonté? La volonté, capacité d'aimer. Et en second lieu, efficacité. Je travaille parce que j'aime. Vous savez, ce petit phénomène qu'on voit tout le temps. Des garçons extrêmement intelligents. Je l'ai vu. Extrêmement intelligents. Mais ils ne travaillaient pas beaucoup. Passaient ses examens. Facilité extraordinaire. Donc, quand on ne travaille pas, notre intelligence ne progresse pas. On arrive très vite à un palier. On n'avait pas voulu dire, mais travaille, quoi. Avec l'intelligence que tu as, tu devrais passer un doctorat, tu devrais passer l'agrégation. Non, c'est fatigant. C'est fatigant. Je passe les examens, c'est suffisant. Là, il s'est arrêté à la maîtrise, et puis c'est tout. Dès qu'il a aimé une jeune fille, et en plus de ça, c'était une russe orthodoxe. Alors, dès qu'il a aimé une jeune fille, la jeune fille a vu qu'il était intelligent. Il dit, alors qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai passé une licence. Seulement. Moi aussi j'ai une licence. Tu pourrais bien plus avoir bien plus. À partir de ce moment-là, il s'est mis à travailler. Dès qu'on aime, on travaille. L'efficacité. L'efficacité provient de l'amour. C'est le fruit de l'amour. On est efficace quand on aime. On peut évidemment aimer sa gloire. Être efficace à cause de la gloire. Mais ça ne dure pas, ça. Il faut aimer une personne pour être véritablement efficace. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui est premier ? Saint Thomas répond, l'intelligence a une dignité supérieure. Mais l'amour, la volonté, passe devant quand il s'agit d'atteindre une réalité supérieure à moi. Autrement dit, toutes les réalités qui sont inférieures à moi, le petit chien, le petit chat, il vaut mieux les connaître que les aimer. Tandis que quand il s'agit de réalités qui sont supérieures à moi, l'homme et Dieu, il faut les aimer pour bien les connaître. Ça va très loin, ça. C'est un partage merveilleux comme examen de conscience. Très fort. L'intelligence a une dignité unique. C'est très vrai. C'est la structure de notre vie. D'avoir une intelligence bien formée, bien structurée. La volonté passe devant quand il s'agit de réalité supérieure à moi. Et la réalité supérieure à moi, c'est Dieu et c'est mon prochain. Parce que dans tout homme, il y a quelque chose qui est supérieur à ce que je suis. Et si je suis vraiment intelligent, je veux aimer cette personne qui a quelque chose de supérieur à moi. Ça va très loin, ça. ça permet de maintenir un respect vis-à-vis de la personne humaine. Alors, je reviens, après avoir dit ça, parce que ça c'est important, vous pouvez réfléchir beaucoup à ça. Ce qui vous fait comprendre que si vous fréquentez un peu Saint Thomas, vous devenez intelligent. C'est vrai. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et quand on voit que Saint Thomas est un sommet au plan théologique de l'intelligence humaine, je crois, pour la connaissance de l'homme, ça va très loin. Et c'est très beau, et c'est très fort. Vous ferez voir une session une fois sur l'homme chez Saint Thomas, et vous verriez ce que c'est magnifique. Ça dépasse toutes les autres conceptions des hommes. Quand le pape parle de l'homme, hein, on voit ce qu'il veut dire. Il exprime quelque chose. Bien, c'est Saint Thomas. Ce qu'il aime, Saint Thomas. Et il sait que c'est génial. Et que ça reste génial. Alors, je vous disais il y a un instant, la relation comme telle n'implique pas nécessairement une dépendance. Vous l'avez dans l'ordre de l'amitié. Qu'est-ce qui distingue une personne d'une autre personne dans l'unité ? Question posée. C'est la relation. Et uniquement une relation subsistante. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'accident. Il y a la simplicité. Le Père est Père dans tout ce qu'il est. Et le Fils est Fils dans tout ce qu'il est. Et l'Esprit Saint est relatif au Père et au Fils dans tout ce qu'il est. Alors que la paternité de notre Père, il n'est pas Père dans tout ce qu'il est. Et nous ne sommes pas Fils dans tout ce que nous sommes. Nous sommes fils au moment d'héritage. Et nous sommes pères quand nous confions tout. Vous voyez, je prends l'exemple. Mais très vite, le fils prend son autonomie et la fille encore plus vite. Prend son autonomie. Pour bien marquer qu'il n'y a pas identité. On est relatif au Père, c'est très vrai. On le reconnaît. Mais pas dans tout notre être. Et la preuve, c'est que c'est Dieu qui crée notre âme. C'est pas notre Père, ni notre Mère. J'ai enfanté un fils de par Yahvé, dit notre grand-mère, Ève. Notre grand-mère commune. J'ai enfanté un fils. De par Yahvé. C'est magnifique. Elle dit pas de par Adam. Ça, c'est pas un mystère, pas la peine d'être révélé. Tandis de par Yahvé, oui. L'âme est créée par Dieu. Pour chacun d'entre nous, il y a un acte créateur de Dieu. C'est pour ça qu'il peut y avoir des fils qui sont beaucoup plus intelligents que leur père. Ça arrive. Et ça arrive. Mais ça, c'est parce que le père est pas content. Alors, il crache. Il peut y avoir des fils plus intelligents que le père, parce que, justement, le fils reçoit une âme qui est créée par Dieu. Et que, en raison de l'atavisme de la mère, en raison de certaines rencontres mystérieuses, il y a eu un développement de l'intelligence. Étonnant. On rencontre ça dans des gosses qu'il faut aujourd'hui. Extraordinaire. Des remarques. Je rappelle cette remarque parce que ça m'a été dit par sa mère. C'était à Genève. Je connaissais un foyer d'artistes. Tous les deux. alors, la mère m'a raconté ça. Elle était très pressée pour devait prendre le train. Elle voit le fils à 4 ans assis sur son divan. La mère très affolée. Faisant les valises à toute vitesse. Alors la mère en face à dire, mais tu pourrais bien m'aider, quoi. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de paresseux? Tu restes. La mère repasse et dit, oh, maman, quand tu l'auras dit autrement, je viendrai. Mais, il n'est pas totalement fils. Il se pose en, en critiquant. Et c'était parfaitement juste quand on connaissait la mère. Ça fait. Alors là, on voit très bien que pour nous, la paternité n'est pas totale. La paternité qui prend tout, c'est le père. Alors c'est maintenant qu'on va regarder ce que on regarde comme les attributs essentiels du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le Père, c'est celui qui est premier, source de tout. Saint Thomas qualifie le Père de cette manière en disant qu'il est inengendré. Il est principe. Il est premier. Il est source. Vous voyez, ce que les orthodoxes veulent mettre en pleine lumière. Le Fils, il est le Verbe. C'est-à-dire qu'il est le fruit de la contemplation du Père. Il est l'image, au sens le plus fort. Il est le Fils bien-aimé. Et l'Esprit Saint, celui qui procède des deux. L'Esprit Saint, il est l'amour. Il est le don. Et les pères de l'Église aiment de dire que l'Esprit Saint, il est le nœud. Il est le secret du Père et du Fils. Il est le nœud, il nous. Alors vous aurez des quantités de métaphores dans l'Écriture. Et ce serait très intéressant. De regarder toute cette métaphore. Je vais simplement donner pour l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est celui qui est le plus difficile à saisir. Le Fils, il a pris un visage d'homme. Pour nous, le Fils, c'est Jésus. Il a pris le visage d'homme. Le plus beau des enfants des hommes. Le Père est à l'origine du Fils. Et l'Esprit Saint, il est le fruit dernier. Alors vous avez des métaphores très belles que les pères de l'Église ont découvert. Qu'est-ce qu'il est l'Esprit Saint? C'est les grandes métaphores pour l'amour. Des grandes métaphores pour l'amour. L'Esprit Saint, il est l'aigle. Oui. Mais il est aussi colombe. L'aigle, c'est la force de l'amour. La colombe, c'est la douceur. C'est vrai que l'aigle, je connais quelqu'un qui aime follement les aigles et qui voulait à tout prix en voir un de près. Alors elle avait questionné, où puis-je aller près d'un nid d'aigle? C'est elle qui m'a raconté ça. Alors, on lui a indiqué, dans les Pyrénées, on peut s'approcher. Il y a des nids qui sont pas très loin. Alors, elle s'est approchée. Il y avait un petit à vue. Puis tout d'un coup, s'approchant, elle était à tellement cette puissance de la vie. La puissance de l'amour. L'amour est plus fort que le géole. La parole du cantique. C'est vrai, l'amour est plus fort que le géole. L'aigle. Et l'amour est plus doux que la colombe. La douceur. L'Esprit Saint, c'est aussi le toit de Dieu. Au Fils, voyez, des symbolismes moins. C'est surtout à l'égard de l'Esprit ça. On a ces quelques grands symbolismes. L'aigle, la colombe, le doigt. On devrait mettre le doigt dessus de tout, parce que c'est humain. C'est directement. Alors on dira aussi, l'Esprit Saint, c'est le cœur. On ne dira jamais que l'Esprit Saint, c'est la terre. Jamais. L'eau vive, parce que c'est l'eau qui est liée à sa source. Alors on dira que l'Esprit Saint, c'est l'eau vive. Vous voyez, dans l'Écriture, il y a des quantités de métaphores symboliques pour expliquer ce que c'est que l'amour. Parce que l'amour ne se dit pas. Vous ne pouvez pas définir ce que c'est que l'amour. Balbutier. C'est pour ça que le prophète dit « Ah, ah, ah !» Le mystère de Dieu, il dépasse. Dieu est amour. On dira « Dieu est lumière, Dieu est amour. » Vous voyez ? La lumière, c'est le Fils. Il est lumière de la lumière. Et la lumière, c'est le Fils. Avant tout. Alors, c'est très vrai, c'est que nous avons, par notre grâce surnaturelle, une possibilité de connaître le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Connaissance mystique qui se fait par les vertus théologales et les dons du Saint-Esprit. Et il y a une connaissance mystique, c'est-à-dire caché, tout intérieur, qui est une connaissance d'amour, par où nous sommes en connaturalité par la grâce, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et les mystiques aimeront de considérer que la foi nous lie au Fils, l'espérance nous lie au Père, et la charité nous lie à l'Esprit Saint. Il y a des sortes d'appropriations merveilleuses qui montrent cette connaturalité profonde que nous avons avec la très sainte Trinité par la grâce. Et c'est très vrai que la foi nous met en connaturalité avec la lumière. L'espérance nous fait nous appuyer sur l'autorité, la source, le Père. Et la charité, l'Esprit Saint. Ça, c'est la connaissance que nous avons de la très sainte Trinité en tant que croyants, en tant que chrétiens. Ce lien qui existe entre nous-mêmes, enfants de Dieu, et la très sainte Trinité, va s'exprimer dans ce qu'on va appeler les missions divines. Les missions divines. Alors comprenez bien, mission, c'est pas tout à fait la même chose que quand on envoie quelqu'un en mission, ou quand on dit un missionnaire. Parce que l'Esprit Saint serait le missionnaire par excellence. Il viendrait évangéliser les terres arides et incultes, c'est-à-dire notre pauvre cœur humain. Le mot mission exprime être envoyé. Alors il faut bien saisir cela, parce que c'est par là qu'on peut voir la connaissance que nous avons de la très sainte Trinité, connaissance intérieure. Le mystère de l'incarnation, le Verbe est devenu chair. Le mystère de Jésus, du Christ, nous révèle la grande mission du Fils. Le Fils vient nous visiter, frappe à notre porte par le mystère d'incarnation et par le mystère de la rédemption. Tout le mystère de l'incarnation, c'est cette mission du Fils auprès de nous. Il nous est donné. C'est le Père qui l'envoie. Et Jésus a une mission à remplir. Nous révéler le Père. Je vous ai lu le texte hein, ce matin. Personne n'a vu Dieu. Dieu, personne ne l'a vu. Un Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Jésus a comme mission de nous révéler le Père, comme Fils, et de faire entrer dans l'intimité avec le Père, nous apprendre à dire Père. C'est la plus grande expérience mystique que nous pouvons avoir. C'est de dire sous l'influence de l'Esprit Saint, du don de sagesse, de dire Père, Abba Pater. Saint Thomas n'hésite pas de le dire. C'est l'expérience la plus profonde de notre filiation à l'égard de Dieu. Elle relève directement du don de sagesse. Le Père envoie son Fils pour nous sanctifier, pour nous consacrer dans la vérité, pour nous apprendre à aimer, pour nous apprendre à adorer. Jésus est venu au milieu de nous dans une mission visible d'incarnation. Et c'est le Fils bien-aimé du Père qui a pris chair de Marie sous l'action de l'Esprit Saint. Le mystère de l'incarnation est l'œuvre des trois personnes divines. Le Père qui envoie le Fils. Le Fils qui accomplit la mission par l'incarnation. Et l'Esprit Saint qui travaille en Marie. Ce grand mystère qui est pour nous la porte sur la très sainte Trinité. C'est par Jésus qu'on entre dans la très sainte Trinité. Porte royale. Puisqu'on entre dans la très sainte Trinité comme fils bien-aimé avec Jésus. Donc, ayant tous les droits. C'est pas la petite porte. Non. C'est Jésus étant fils du Père, étant un avec le Père, n'a jamais quitté le mystère du Père, le sein du Père, comme il est dit dans l'Écriture. In sino patris. Et Jésus nous fait entrer par la même porte royale. C'est ça le privilège du chrétien. Le chrétien, c'est que par Jésus, il entre dans le mystère intime de Dieu. Ne l'oubliez jamais, ça. Quand vous donnez votre témoignage de chrétien, c'est ça. Et le mystère de l'Eucharistie, il a pour nous faire comprendre que Jésus est donné en totalité. Le don de son corps, le don de son cœur, le don de son âme, le don de tout l'humain. La mission du Fils, envoyé par le Père, puis à la mission de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est envoyé par le Père. L'Esprit Saint est envoyé par le Fils. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette parole de Jésus qui est si importante, je vous la cite pour que je sois sûr que vous la regardiez. C'est le Fils qui dit, et moi-même, je vous l'enverrai. Donc, chapitre 16. Verset 5. Jusqu'au verset 19. Et l'Esprit Saint, c'est une mission invisible au plus intime de notre cœur. Pour que tout ce que Jésus nous a dit soit repris. Donc voyez, le Fils est envoyé par le Père, l'Esprit Saint est envoyé par le Père et par le Fils. Et le Père, il n'est pas envoyé, il se donne. Il est entièrement donné. Et vous avez aussi le verset 15, verset 26. Chapitre 15, verset 26, pardon. Le Père est donné. Et c'est pour ça qu'on parle de l'habitation de la très sainte Trinité en nous. Par la grâce. Par la grâce, la très sainte Trinité habite en nous. Le Père nous est donné, le Fils nous est envoyé et l'Esprit Saint. Et nous le recevons dans la foi, l'espérance et la charité. Et la vie chrétienne consiste à vivre de ce mystère de la très sainte Trinité. C'est ce qu'il y a de plus intime dans la vie chrétienne. Une vie toute d'amour et toute de lumière. C'est là où nous touchons ce que représente la vie de prière intime, personnelle, l'oraison. Vie du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et la contemplation. On a soif de contempler le Père, de contempler et de se laisser emporter et éduquer par eux. L'éducation dans l'ordre de l'amour, qui nous transforme du dedans. Y a-t-il encore des questions? la vision orthodoxe, c'est de dire que le Père de vous, voyez. Je crois qu'il faut garder mes distances. Le Père est source du Fils. Le Père est source de l'Esprit Saint. Et selon l'Apocalypse, est affirmé en premier lieu Père source de l'Esprit Saint. Et en second lieu, source du Fils. Voyez l'ordre. Quand vous regardez l'Évangile, le prologue, vous voyez que le Père est source du Verbe, qui est Fils. Et au terme de l'Évangile de Jean, vous voyez que le Père envoie l'Esprit Saint et que le Fils envoie l'Esprit Saint. Or, si le Fils envoie l'Esprit Saint, ça prouve que l'Esprit Saint procède de lui. Parce que s'il procède de lui, on montre un ordre d'origine. Et pour envoyer quelqu'un, il faut être avant. Donc, puisqu'il est révélé la mission de l'Esprit Saint à partir du Fils, je peux donc dire que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Vous voyez ? Tandis que chez les orthodoxes, il n'y a qu'une théologie biblique et mystique. Donc, une théologie du gouvernement de Dieu sur moi. Or, au point de vue du gouvernement, je vois que l'Esprit Saint me permet de parler de Jésus. C'est sous le souffle de l'Esprit Saint que je dis Jésus. En comprenant que Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Et l'Esprit Saint me fait dire Père. Donc, l'Esprit Saint est celui qui me conduit au Fils et qui me conduit au Père. Voyez bien. Si je n'ai pas la recherche de la théologie scientifique de saint Thomas, regardez Dieu en lui-même. Et non pas seulement Dieu qui m'accompagne, Dieu qui m'assume. Je n'ai pas cette vision Père, Fils, Esprit Saint. Ce que nous disons couramment, hein, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Oui, nous prenons cet ordre-là. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. En montrant que le Père est source du Fils et que le Père et le Fils sont source de l'Esprit Saint. Oui. Alors, la vision, je ne la rejette pas, celle des protestants, celle des orthodoxes. Je ne la rejette pas. Je dis, elle est incomplète. Oui. Faut pas dire qu'elle est fausse. Non. Elle est incomplète. Faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est comprendre que si le Père est source du Fils, est source de l'Esprit Saint, comment vont se distinguer l'Esprit Saint et le Fils? Tous les deux procèdent du Père. Quel est le lien entre l'Esprit Saint et le Fils? Or, les personnes divines ne peuvent se distinguer que par relation d'origine, puisqu'elles sont une autrement. Vous voyez? Alors, contemplez le mystère de la très sainte Trinité. Le Père. aimez le Père, aimez le Fils, aimez l'Esprit Saint. Il faut aimer, prier le Père, notre Père. Il faut aimer être avec Jésus, l'Eucharistie. Il faut aimer être sous le souffle de l'Esprit Saint. Vivre de ces trois relations. Alors, l'acte propre qui nous rapprocherait du Père serait-il celui d'obéissance? Le Père est source, l'autorité suprême, le Père. De sorte que c'est vrai de dire que c'est par l'espérance que je suis uni d'une manière très particulière avec le Père. Je mets ici le petit chrétien. Il est uni au Père par l'espérance. Et l'espérance réclame l'obéissance. Je suis uni au Fils par la parole, la foi.